Bonjour, je suis particulièrement content d'être là aujourd'hui. Merci à Marie-Claude Morel et à Johan Necruccio de m'avoir invité. Effectivement, les origines et les coulisses de la création de l'IUF, j'y ai participé. Et je veux juste vous montrer quelques aspects sur ces débuts. Quelles étaient ses origines? Claude Allègre, en tant que conseiller spécial du ministre à l'époque, avait monté ce comité scientifique auprès du ministre de l'Éducation nationale. Il m'avait demandé de le présider. J'aime pas les comités, donc j'ai beaucoup hésité, mais Claude Allègre est un bon copain. De plus, il avait fait quelque chose de très original. Pour chaque matière, il y avait un représentant français, un spécialiste français et un étranger à parier. Et ceci était très attrayant, une ouverture très très nette sur la communauté internationale qui, à l'époque, cette ouverture n'était pas nécessairement la caractéristique de nos administrations. Voilà donc la séance du vendredi 24 novembre, la première séance de ce comité scientifique de l'Éducation nationale, où vous voyez un exposé fait par Vincent Courtillot sur la politique scientifique en matière de recherche universitaire. Fiche 4 à 9. La fiche 9 est celle qui vous intéresse. L'IUF ne s'appelait pas initialement IUF, mais Institut national des hautes études scientifiques universitaires. C'était un peu long et le nom d'IUF est ressorti assez rapidement après, mais c'était donc la proposition initiale. Les discussions qui ont eu lieu, avec donc nos discussions qui ont été rédigées en général, enfin le rapport a été rédigé. Là, peut-être pour révéler quelque chose d'assez marrant, à l'époque, c'était André Braik avec qui je rédigeais ça. André Braik est un astronome, donc lui commence à vivre à 9h du soir. Donc en général, on rédigeait ça entre minuit et 3h du matin ou 2h du matin. C'était très intéressant, c'était très bien. Et André est devenu un bon ami de ce fait. Création de l'Institut national des hautes études universitaires. C'est une excellente mesure, etc., etc. Vous pouvez le lire, bon, c'est ce qu'on écrit normalement, mais nous étions très, très contents de cette initiative et nous l'avons fortement soutenue. Ensuite, le décret, où maintenant le nom a changé. Il s'appelait bien l'Institut universitaire de France. Voilà, donc un petit regard en coulisses. J'aimerais maintenant vous présenter quelques contributions que la chimie peut apporter à cette question des ressources. Nous savons, nous sommes universitaires, nous aimons penser que nous contribuons à la vie sur la planète. Et tout progrès de la connaissance est un gain de ressources. Ceci est clair, et je finirai d'ailleurs là-dessus si le temps me le permet. L'utilisation raisonnée des ressources dépend avant tout des progrès de la connaissance et de la façon dont nous gérons l'ensemble des ressources. En plus, c'est l'année internationale de la chimie, donc je me sens obligé de vous parler évidemment de chimie. L'ensemble de nos ressources, partout et pour toujours, c'est quoi? C'est ça. Nous sommes là-dedans, il s'agit de gérer la planète, le capital interne et externe de la planète, de sorte à ce qu'elle soit durable et vivable pour nous, et non pas durable en elle-même. En quelque sorte, il ne faut pas nous bassiner avec ces questions de planète durable et tout ça. Mais non, elle doit être durable et vivable pour nous, sinon ça ne nous intéresse absolument pas. Ce que devient la Terre, on s'en moque et l'univers s'en moque. Ceux qui ne s'en moquent pas, c'est nous. Donc, soyons un peu raisonnables. Sortons de cette hypothèse Gaïa et compagnie. La planète n'a d'intérêt que parce que nous y sommes. Et donc, il faut essayer de gérer les choses. Au début, c'était la physique qui a tout dirigé. Après le Big Bang, il n'y avait pas de chimie, évidemment. Trop chaud, mais très rapidement, l'univers s'est refroidi. Des particules se sont formées, les atomes se sont constitués. Les atomes se sont constitués en molécules. Les molécules se sont complexifiées, ont commencé à définir des compartiments, des protocellules. La vie est apparue par des processus que nous ne connaissons pas encore, mais qu'on connaîtra. Et donc, Après la période de la physique est venue la période de la chimie, à peu près ici. La vie est apparue à peu près là. Et le processus d'évolution a conduit ensuite à l'apparition de la pensée. La chose qui nous intéresse le plus, évidemment. Quelle est alors la question primordiale à se poser en tant que scientifique? Comment la matière devient-elle complexe? De la particule élémentaire à l'organisme pensant. C'est ça la question. La relativité générale, c'est très important. La mécanique quantique, c'est très important. Mais ce qui est plus fondamental, pas nécessairement plus important, c'est comment l'univers a-t-il fait pour produire Einstein ou Planck? Donc, à côté de la physique qui s'occupe des lois de l'univers, grand problème, la biologie qui s'occupe des règles de la vie, grand problème, que fait la chimie? Elle fait des molécules intéressantes, des matériaux intéressants, mais où est le grand problème? J'aimerais prétendre que la chimie s'occupe de ce qui est le problème le plus fondamental, c'est-à-dire le pont entre les lois de l'univers, l'apparition de la vie et de la pensée. Nous en sommes loin, mais nous pouvons en décrire des étapes. La réponse à cette grande question, nous la connaissons. Vous me diriez, oui, mais halte-là, comment est-ce possible? Si on connaissait la réponse, ce serait dans tous les magazines, dans tous les journaux, en grand titre. Si, on la connaît. On connaît en fait le mot qui désigne ceci, le chemin de la matière divisée à la matière condensée, puis organisée, puis vivante, puis pensante. C'est l'auto-organisation. Ça s'est fait tout seul sur la base des lois de l'univers. En quelque sorte, c'est pratiquement un impératif cosmique que nous existions. L'organisation de la matière obéit encore à deux types de forces. À grande échelle, l'organisation de la matière se fait sous les forces gravitationnelles. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. L'organisation de notre matière se fait par action des forces électromagnétiques, sur les éléments, les composants de la matière, en des recombinaisons variées, très diverses, et qui alors suivent un certain chemin pour aboutir finalement à quelque chose qui, suivant certains paramètres, un peu mieux, par exemple thermodynamiquement, qu'autrement. Et donc cette auto-organisation de la matière vivante se fait par action des forces électromagnétiques sur les briques qui constituent notre univers. Avant qu'il n'existe la vie, il a dû y avoir une évolution purement, disons, chimique. La vie est aussi quelque chose de chimique, mais purement chimique, dans ce sens qui était pré-vivant, pré-biotique. Et cette évolution a mené au seuil de la vie. Il devait donc y avoir une des étapes qui ont conduit progressivement à l'apparition de la vie. Cette chimie dite pré-biotique, un certain nombre de personnes essayent d'y contribuer, de comprendre comment ça aurait pu se passer, mais il est clair qu'elle a dû exister. La chimie, là-dedans, alors de quoi s'occupe-t-elle? Vous êtes très variés dans vos domaines. Nous sommes des scientifiques avant tout. Nous aimerions, je pense, la plupart d'entre nous, bien avoir la possibilité de tout faire. Ce n'est pas possible, donc, de façon pratique, on divise la science en compartiments, mais dont les frontières sont plus ou moins floues. Et la chimie s'occupe de cette partie qui est la structure de la matière et la transformation de la matière. Comment c'est fait? Comment ça se transforme? D'ailleurs, l'une des parties les plus attrayantes, c'est la transformation. Comment transformer des objets matériels les uns dans les autres? C'est la puissance de la chimie, et j'y reviendrai. La chimie est une science et donne lieu à des technologies absolument cruciales pour une utilisation qu'on appelle durable de nos ressources. Petit exemple, tout progrès, par exemple un catalyse chimique, peut conduire à un énorme changement d'utilisation des ressources, à la fois des matières et de l'énergie mise en jeu. Donc il y a là un des défis majeurs à combler. Initialement, les atomes se sont combinés en molécules, et c'est la chimie moléculaire qui est née. C'est une chimie des objets matériels, des éléments liés par des interactions très fortes, que les chimistes appellent des liaisons covalentes. Les physiciens nous diraient, tout ça c'est dans l'équation de Schrödinger, c'est vrai, mais c'est un peu difficile à manipuler. et de toute façon, ce n'est pas très bien à la résoudre, bien qu'il y ait des approches, des approximations. Mais cette liaison covalente est en quelque sorte le lien très solide qui unit les atomes dans les molécules. Et pour donner deux exemples de jalons de chimie moléculaire, pour montrer le progrès réalisé, en 1828, Friedrich Wöhler a fait la synthèse de l'urée en laboratoire à partir de cyanate d'ammonium. Ça a l'air de peu de choses, petite molécule l'urée, mais c'était très important du point de vue chimique, fabriquer des objets nouveaux et transformer les objets les uns dans les autres. C'était aussi très important du point de vue philosophique, métaphysique. À l'époque de Wöhler, on pensait qu'il n'y avait pas moyen de produire en laboratoire une substance contenue dans un organisme vivant sans l'aide d'une force magique, la force vitale. Wöhler, en synthétisant l'urée à partir du cyanate d'ammonium, a tué l'hypothèse de la force vitale. Il n'y a pas de force vitale, il n'y a pas de discontinuité entre le non-vivant et le vivant, entre les composants du vivant et le non-vivant. 150 années après, la vitamine B12 que nous avons tous dans notre organisme a été produite en laboratoire par des efforts conjugués de deux laboratoires, l'un dirigé par Robert Burns Woodward à Harvard et l'autre par Albert Eschenmoser à l'ETH à Zurich. Moi, j'avais participé à cette entreprise, j'étais l'un des 150 chercheurs environ qui ont édifié cette molécule à partir des pièces carbone, hydrogène, oxygène, azote, et un petit peu de phosphore, etc., qui la constitue, et c'était une grande entreprise, et elle a été réalisée en une dizaine d'années, elle a montré combien la chimie dite moléculaire, donc cet art et science de construire des molécules très compliquées à partir des briques élémentaires, avait atteint une grande maturité, et depuis, évidemment, ça a continué. La chimie a continué à s'enrichir de nouvelles méthodes, à fabriquer des nouveaux objets, à des propriétés nouvelles. Tout ça, rien que par les progrès récents, le prix Nobel de l'année dernière, par exemple, a été attribué pour des réactions chimiques qui n'existaient pas à l'époque où la vitamine B12 a été faite. Et maintenant, on la ferait sans doute plus de la même façon. Juste pour vous dire que la chimie moléculaire est bien portante, elle continue, elle va continuer longtemps, puisqu'il y a encore beaucoup de transformations chimiques à découvrir. Mais on peut se poser une question. What next? Quoi d'autre? Ici, vous voyez une cellule cancéreuse entourée de deux cellules tueuses. Ces deux cellules tueuses ont pour mission de détruire la cellule cancéreuse. Qu'est-ce qui dit aux cellules tueuses que l'autre est une cellule cancéreuse? Il ne faut pas qu'elle se trompe, ce serait un grand problème. Qu'est-ce qui dit à ces deux objets biologiques que l'autre est la cible? De même, les particules du virus HIV, VIH, pour entrer dans le globule blanc, il faut qu'il trouve la cible, il faut qu'il trouve le globule blanc, il faut être renseigné sur le fait d'avoir atteint la cible. Qu'est-ce qui dit au virus que la cible est atteinte? Manifestement, il se passe quelque chose entre les objets en question. Ces gros objets, définis par une membrane, des membranes pourvues d'une part de leur support et avec dedans, en quelque sorte, des molécules mains qui peuvent toucher d'autres molécules, c'est le contact entre les deux qui renseigne les cellules tueuses sur la nature cancéreuse de l'autre cellule, ou non cancéreuse, et alors il ne faut surtout pas activer les mécanismes de destruction, et qui renseigne le virus sur le fait que l'autre est le globule blanc. Et maintenant, on peut envahir, on peut infecter. Il se passe donc quelque chose entre les corps en question, ce qui veut dire qu'il y a une chimie qui se passe non plus dans les molécules, mais à l'interface entre les molécules, et c'est ça l'idée de la chimie supramoléculaire, qui est une chimie qui est par-delà la molécule, au niveau de complexité qui suit le niveau moléculaire, et qui, là, utilise des liaisons faibles, qu'on appelle non-covalentes, et qui permettent aux objets de se toucher, de s'accrocher, de se tâter en quelque sorte, pour avoir des renseignements sur ce qu'est le partenaire ou l'objet, ou l'objet que l'on a atteint par collision, tout simplement. La chimie s'est donc développée de la chimie moléculaire, utilisant toutes les ressources de la synthèse chimique, et ensuite une planification des interactions possibles entre ces objets moléculaires, le récepteur étant celui qui reçoit, mais enfin c'est un peu arbitraire, qui est le récepteur, qui est le substrat, interagissant avec son substrat, donnant lieu par ces interactions non covalentes à des édifices qui sont supramoléculaires, dont les fonctions de base sont d'une part la reconnaissance d'un objet par l'autre, chose très importante, par exemple, dans le cas cellules tueuses, cellules cancéreuses, la transformation de l'un des objets par l'autre, effectuer une transformation sur l'objet lié, ou le transport, aider l'objet à passer à travers des barrières. L'étape d'après est d'utiliser ces premières connaissances acquises pour essayer d'entrer dans le domaine de l'auto-assemblage et de l'auto-organisation, c'est-à-dire mettre au point des systèmes qui vont générer des architectures supramoléculaires complexes à partir des briques de base, spontanément, mais de façon contrôlée. Et je reviendrai là-dessus. La chimie s'est donc développée, cette chimie supramoléculaire, en une première étape, comment les objets chimiques se reconnaissent-ils ? Comment réagissent-ils les uns avec les autres ? Ou peuvent-ils transporter l'un l'autre à travers des barrières ? Une deuxième étape, ensuite, se développent en parallèle, l'auto-assemblage et l'auto-organisation, qui repose sur un dessin, un concept, un projet, design, un projet qui met en œuvre une programmation moléculaire, une vraie programmation, et ensuite une évolution plus récente, sur laquelle je terminerai, qui est de mettre en jeu aussi des systèmes qui vont pouvoir évoluer dans leur constitution, s'adapter et procéder par sélection des objets qui les composent. La reconnaissance moléculaire est donc le phénomène de base. Dans notre organisme, toute fonction commence par une reconnaissance entre molécules. Il n'y a pas de fonction biologique qui n'ait pas initialement une étape de reconnaissance. Il faut pour cela des interactions, j'en ai parlé, mais surtout de façon très importante, et c'est peut-être l'apport conceptuel le plus important de la chimie supramoléculaire au domaine de la chimie, c'est que la chimie, cette reconnaissance repose sur l'information. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'information. La façon la plus simple d'exprimer cette information est d'utiliser la vieille image d'Emile Fischer de 1894, qui ne parlait pas de reconnaissance, mais qui avait déjà l'image correcte, quand il disait que pour qu'un enzyme puisse opérer sur son substrat, il faut qu'il s'ajuste comme Schloss und Schlüssel, serrure et clé. Cette complémentarité, qui à l'époque de Fischer était très géométrique, clé-serrure, évidemment s'est complétée d'une complémentarité interactionnelle, mais à la base, l'image est correcte, clé-serrure, simplement il faut la généraliser. Nous avons commencé nos travaux, pour vous donner juste un exemple de ce traitement clé-serrure, en prenant d'abord le cas le plus simple. Vous savez que, évidemment, l'un des procédés que nous adoptons tous, c'est quand on a un problème très compliqué auquel on s'intéresse et qui nous excite, la chose, c'est qu'il faut d'abord essayer de savoir par quel bout le prendre et donc simplifier un peu les choses. Et dans l'espace à trois dimensions, l'objet chimique, l'objet le plus simple, c'est évidemment la sphère. Il y a une série de sphères, les métaux alcalins, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, et ça nous semblait, au début de nos travaux, en 1967, une collection intéressante pour essayer de comprendre comment se fait la reconnaissance moléculaire. Et notamment, une autre raison est que parmi ces ions, dans cette série de boules de taille croissante, sodium, potassium occupe une place toute spéciale dans notre organisme, puisque le transport de l'influx nerveux qui me fait bouger le bras, par exemple, repose sur des changements de concentration de sodium et de potassium à travers les membranes des axones. Donc, plusieurs raisons de s'intéresser à cela et d'essayer de comprendre comment on peut lier sélectivement ces ions, l'un plutôt que l'autre, et les transporter sélectivement, par exemple, à travers une membrane comme les membranes nerveuses. Nous avons à cette époque-là donc fabriqué des serrures pour les clés sphériques, des cryptes, cryptans, cryptates, et qui peuvent être ajustées. La chimie sait faire cela, faire des cavités petites et des cavités de plus en plus grandes. La plus petite est complémentaire du lithium, du sodium, du potassium, etc. C'était juste un début, évidemment le plus simple, mais les choses sont bien sûr rapidement complexifiées et beaucoup de laboratoires de par le monde ont étudié des systèmes de plus en plus complexes. Ceci est simplement un petit exemple pour montrer une étape, peut-être l'étape juste après. De la sphère, on passe au tétraèdre. L'ammonium est une molécule tétraédrique. Ceci est en quelque sorte la serrure qui correspond à cette clé. et voilà le modèle moléculaire qui permet de voir qu'il y a une très belle complémentarité de forme, de taille, d'interaction. La chimie est donc aussi une science de l'information, et j'aimerais certainement insister là-dessus. Il ne s'agit pas simplement d'une science de la structure ou de la transformation de la matière, mais c'est une science de la matière informée. Toute molécule chimique porte de l'information. Cette information est stockée dans la molécule, elle est traitée au niveau supramoléculaire. Le stockage est moléculaire et le traitement est supramoléculaire. Quelques applications rapidement. Bien sûr, on nous demande toujours à quoi ça sert ce que vous faites. Il y a plusieurs aspects. D'abord, au départ, quand nous faisons de la recherche fondamentale, on ne se pose pas trop la question, et je crois qu'on ne doit pas se poser trop la question des applications, mais garder les yeux ouverts pour ce qui pourrait être des applications. Évidemment, la chose la plus évidente à la reconnaissance moléculaire, c'est la mise au point de nouveaux médicaments, puisqu'en quelque sorte, un médicament, c'est une clé pour une serrure biologique qui active ou qui réprime une certaine fonction. Cela conduit aussi à une mise au point d'une méthode de diagnostic médical et du transfert de gènes. Juste les exemples. L'un des cryptates que nous avions fonctionné à l'époque, c'est juste pour vous illustrer un peu ce qu'on peut faire, était d'une molécule qui nous avait intéressé, un système qui nous a intéressé pour des propriétés photophysiques. C'est une molécule qui absorbe de l'UV et émet par l'ion europium qui se trouve au centre de la cavité une lumière rouge, donc une espèce de petite ampoule, une nano-ampoule rouge qu'on peut accrocher sur des immunoglobulines et qui a donné lieu à une méthode d'analyse de diagnostic médical grâce au travail de Gérard Matisse dans une firme française, CIS Bio International. Ça illustre aussi combien nous dépendons les uns des autres. Quand nous avons commencé ces travaux sur les cryptans, les cryptates et tout le reste, il n'y avait pas d'anticorps monoclonaux. Depuis, ceci était développé et en faisant le joint entre les deux, anticorps monoclonal qu'il faut détecter, on lui accroche le marqueur et on aboutit de ce fait à une méthode de diagnostic médical qui donne lieu à cet appareil qui est utilisé dans beaucoup d'hôpitaux maintenant. Un autre phénomène, attraper une substance, la reconnaître et la guider à travers une barrière comme une membrane cellulaire. Nous avions beaucoup étudié cela au début des années 70, puis on peut laisser tomber parce que bon, ça, on avait fait pas mal de choses dans le domaine. Et il y a eu une remise à l'ordre du jour lorsque le transfert de gènes ça a été envisagé, c'est-à-dire la possibilité éventuelle de prendre un bout d'ADN et de l'introduire dans une cellule en passant la membrane. L'ADN étant chargé négativement, on n'a aucune envie de passer la membrane et il faut donc essayer de concevoir des agents artificiels, il peut y aussi avoir des naturels comme les virus, mais là je ne vais pas en parler, pour essayer de faire passer ces molécules, donc ces molécules d'ADN, ces gènes, à l'intérieur de la cellule pour faire exprimer les produits correspondants. Ceci est très intéressant, d'une part, pour les biotechnologies, mais aussi pour la thérapie génique. Juste donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver des vecteurs synthétiques qui envelopperont l'ADN, un peu le cacheront en quelque sorte, lui permettront de passer la membrane et de libérer, et ensuite de générer le produit final. Un petit exemple. On prend très souvent, on prend en général comme gène initial un gène reporter, donc un gène qui permet d'être détecté facilement par son produit, par exemple la bêta-galactosidase qui permet de colorer les cellules en bleu ou la luciférase qui permet de faire émettre de la lumière aux cellules. Et voilà donc un cas à gauche, vous voyez, c'est des cellules primaires humaines qui, toutes celles qui sont en bleu, ont été transfectées. Et ce travail se fait avec un de mes frères qui est professeur de biologie cellulaire à Brest, à l'Université de Brest. Il s'intéresse à la mucoviscidose, maladie qui correspond à la déficience d'un canal chlorure dans les cellules épithéliales des voies aériennes et qui conduit, il n'y a pas d'adultes qui l'ont parce qu'on meurt en général assez jeune, mais comme on peut sans doute se transfecter assez facilement par inhalation, c'est peut-être l'un des cas qui peut être utilisé et qui peut être où l'application d'un transfert de gènes est envisageable. Voilà donc quelques expériences faites par instillation intratrachéale dans des voies aériennes de souris et vous voyez que les cellules épithéliales ont été transfectées. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Il y a évidemment, pour avoir un médicament, il y a beaucoup d'étapes à franchir, mais ça vous indique que des idées chimiques relativement simples permettent de réaliser dans des systèmes très complexes, un peu boîte noire. On fait entrer le truc et on regarde ce qui sort, parce qu'entre les deux, il y a énormément de choses compliquées qui se font, bien sûr. Revenons un petit peu à l'auto-organisation. Par-delà, la pré-organisation, faire des clés pour des serrures ou des serrures pour des clés, il s'agit maintenant de savoir si je peux utiliser ce que j'ai appris pour faire de l'auto-organisation. Ceci voudrait dire quoi ? Essayer de monter des systèmes chimiques qui, spontanément, mais de façon contrôlée par l'information qu'on a mise dans le système, permet d'édifier une architecture plus grande. Évidemment, nous en sommes, nous, des systèmes auto-organisés. Le plus simple, un des plus simples, c'est le virus. Là, la mosaïque du tabac est un exemple, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. La mosaïque du tabac est un virus formé de 2130 briques et puis du génome du virus, l'ARN viral. Vous mélangez, vous mélangez les briques avec l'ARN viral et automatiquement, ça s'édifie. Ça a l'air magique, mais il n'y a rien de magique du tout là-dedans. Les molécules protéiques, c'est des molécules parfaitement définies. N'importe quel chimiste peut vous dire exactement ce que c'est comme molécule et comment, enfin, pas ce que c'est, mais ce qu'elles concernent, ce qu'elles contiennent comme forme, comme propriété. À la surface, elles peuvent interagir. Et elles sont, c'est compliqué, mais ce n'est pas complexe, dans ce sens que les molécules sont grandes, ont des formes bien déterminées, mais ces formes déterminent le fait qu'elles doivent s'accrocher d'une certaine façon et immanquablement produire ce type d'édifice qui donc constitue le virus par l'action des forces simplement physico-chimiques entre les objets, à condition que la structure, évidemment, est la bonne, soit la bonne, avec la bonne forme, les bonnes interactions. Donc rien de magique de la chimie structurale, organique, biochimique, et puis de la physico-chimie. Ça ressemble à nouveau à quelque chose de programmé, parce qu'après tout, vous avez des éléments, vous les mélangez, et puis automatiquement, vous avez une sortie du programme. Le programme est moléculaire, il est stocké sur la surface de ces objets en interaction, et sa mise en œuvre, ce sont les interactions elles-mêmes, il est supramoléculaire. On peut même définir d'ailleurs un algorithme du processus qui est la façon dont est lue cette information. Je vais vous donner quelques petits exemples rapidement de ce qu'on peut faire, mais là je vais vraiment simplement sélectionner parmi la multitude de choses maintenant, de systèmes capables de s'auto-assembler de façon de plus en plus complexe qui ont été réalisés de par le monde, quelques-uns que nous avons fait au laboratoire, et notamment le début de ce que nous avions fait, les choses initiales, où la brique est une molécule et le ciment qui lie, la colle qui les lie, qui oriente les molécules, est un cation métallique. On peut dire que la brique moléculaire contient l'information, le cation métallique lie cette information et automatiquement génère une certaine architecture qui porte ce nom un peu complexe de métallo-supramoléculaire. On peut faire des doubles hélices qui n'ont rien à voir avec la double hélice naturelle. Si vous fabriquez des molécules qui ont la bonne forme et les bons sites d'interaction, et si vous utilisez le bon métal, dans ce cas-là du cuivrin, automatiquement vous assemblez une double hélice et vous pouvez faire des triples hélices. Donc juste un exemple, vous mélangez et vous obtenez. On peut faire des grilles aussi, un aspect un peu plus, disons, micro ou nano-électronique, quand on regarde les objets et leur géométrie que vous voyez à droite, manifestement, ces arrangements de molécules maintenues de façon perpendiculaire par les ions métalliques font penser à des circuits de nano-électronique. Et c'est effectivement ce qui peut être réalisé si les molécules sont choisies et sont construites de façon adéquate. Si l'ion métallique est choisi de façon adéquate, vous obtenez automatiquement les objets qui se trouvent à droite. Voilà juste un exemple où les sous-unités qui servent donc de stockage en quelque sorte d'informations, qui dans ce cas-là, qui servent de point d'attache aux ions métalliques, utilisent des ions métalliques à coordination octaédrique. Alors, c'est très facile, on n'a pas besoin d'être chimiste. Un octaèdre, c'est deux fois trois points dans deux plans perpendiculaires, comme ça. Donc, automatiquement, il faut que les molécules soient maintenues perpendiculairement. Et puis, le principe aussi qui dit que l'énergie la plus basse, l'énergie libre la plus basse, est celle où tous les sites sont occupés, conduit automatiquement à la formation de ces grilles que vous voyez à droite. Voilà juste l'une des grilles qui a été faite. Vous avez ici 8 molécules, 16 ions plomb, automatiquement, ça se met ensemble avec la production donc d'une part de sites, ce sont tous des ions plomb, mais localisés différemment, donc ayant des propriétés légèrement différentes, notamment spectroscopiques. Il y en a 4 dans les coins, 8 sur les côtés et 4 au milieu. On peut les distinguer. C'est déjà une façon, ça fait sentir un peu qu'on pourra peut-être parler à chacun de ces sites séparément. Un nanocylindre, juste pour indiquer qu'on peut faire des objets un peu plus compliqués. Des barrettes rouges, des molécules avec 4 points d'interaction, 4 sites d'interaction. Des molécules plates, en bleu, et les points de contact, ce qui les lie. Vous mélangez les rouges, les bleus, enfin colorés évidemment en rouge et en bleu sur le dessin, et les ions métalliques qui automatiquement vous formez ce petit nanocylindre. Un petit point là-dessus, cette possibilité de conduire à l'auto-organisation d'objets de plus en plus compliqués peut aussi être très importante, cette possibilité est très importante pour la suite de ce domaine qui se développe énormément, qui est déjà très développé, mais qui va continuer à se développer, nanosciences et nanotechnologie, où le mot à l'ordre du jour, c'est on fabrique, on rend de plus en plus petit et on essaie de mettre de plus en plus de composants au sein du même volume. C'est une approche très intéressante, mais peut-être qu'un jour, on pourra plus faire plus petit ou c'est trop cher, etc. Pourquoi ne pas utiliser alors le fait que la matière n'est pas stupide et qu'en fait, par auto-organisation, on peut peut-être aboutir à une auto-fabrication. C'est-à-dire que ce que l'on peut supposer, et je crois qu'il faut absolument explorer, d'ailleurs il y a des choses en route pour cela, c'est la possibilité de passer de la nécessité de faire fabriquer nos objets à laisser l'objet se faire lui-même. C'est en fait la fabrication ultime. Et nous-mêmes, nous ne sommes fabriqués de cette façon-là. Nous sommes auto-organisés, donc ça marche, c'est une tautologie, ça marche, et donc il faut essayer de la comprendre et de l'utiliser pour réaliser d'autres choses que des choses naturelles. Le but, en fait, n'est pas simplement de faire de plus en plus petit. Le but, c'est de faire en plus en plus complexe. Le cerveau, c'est l'objet le plus complexe, mais ses composants ne sont pas nano, sont micro. Donc, en fait, bien que Feynman ait dit un jour « There's plenty of room at the bottom », plus c'est petit, plus on peut en comprimer dans le même volume, je pense qu'on peut prétendre qu'il y a encore plus de place au sommet, c'est-à-dire qu'on cherche la complexité. On ne se préoccupe pas trop de la taille. Évidemment, taille plus petite et complexité plus grande donnent encore des résultats en principe plus puissants. Cette auto-organisation dont je vous ai parlé pour l'instant, dont j'ai montré que quelques exemples, dont j'en aurais pu en montrer beaucoup d'autres, et c'est bien développé, c'est une auto-organisation sur projet, sur design, sur dessin, qui se base sur l'information dans les objets et la programmation. Il y a une autre approche qui est intéressante et qui représente une évolution récente, enfin récente, 10-12 ans, de la chose. C'est l'auto-organisation avec sélection. L'idée étant que non seulement on va essayer de faire en sorte que le système produise l'architecture finale qu'on désire, mais on voudrait qu'il le fasse en sélectionnant dans une multitude de briques possibles, se trouvant dans l'environnement, juste celles qu'il lui faut pour se construire. Pour cela, il faut de la diversité. Sans diversité, il n'y a pas de sélection. Il faut de la dynamique. Il faut que les objets en question soient labiles. Il faut qu'ils puissent explorer l'hypersurface, structure, énergie, pour si, par exemple, l'une des combinaisons n'est pas la meilleure, c'est-à-dire dynamiquement, par exemple, il y a moyen de revenir en arrière et de chercher autre chose. Ceci ouvre la voie à l'adaptation. Les idées initiales, très rapidement, pas entrer dans les détails, mais juste pour vous faire sentir comment on peut aboutir à ce genre d'idées. Je vous ai montré auparavant des molécules et des ions faisant soit des doubles hélices, soit des triples hélices. Ensuite, nous avons fait quelque chose qui, pour un chimiste, en général une hérésie, mélanger les objets qu'on a pris beaucoup de peine à faire de façon pure d'abord, avec des bouteilles différentes, mais tout mélanger, et se dire, bon, maintenant, laissons le système faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le résultat est que ce système, en mélangeant le brin qui donne la double hélice et le brin qui donne la triple hélice et du cuivre et du nickel, donne uniquement la double hélice avec les bons brins et le bon ion, uniquement la triple hélice avec les bons brins et le bon ion. Ça veut dire que le système a opéré une sélection, a reconnu en quelque sorte quels sont les éléments qu'il lui faut pour se construire et a séparément, côte à côte, édifier des doubles hélices et des triples hélices. De même, en utilisant ce brin moléculaire et un sel de fer, lorsque le fer était un chlorure, il s'associe, ces brins-là s'associent en un système circulaire à cinq sites, cinq fers, ayant un chlorure au milieu. C'était intéressant, mais on pouvait se demander pourquoi cinq sites avec un chlorure au milieu. La première hypothèse était de dire, après tout, c'est peut-être le chlorure qui requiert que le système lui produise un pentagone, parce qu'il est bien content là au milieu, dans ce trou central, en interaction. Bien content voulant dire interaction forte. En mettant du sulfate, on en a six. Si vous rajoutez du sulfate, mais du chlorure, vous revenez à 5. En quelque sorte, le système répond aux sollicitations de ce qu'il y a autour. Et ceci a donné naissance à l'idée qu'on a une espèce de bibliothèque, d'un ensemble dynamique de systèmes circulaires dont chaque membre peut refaire tous les autres, à condition d'être placé dans des conditions où on peut échanger. Et donc, le système s'adapte à ce qui se passe. Vous mettez du chlorure, ça fait 5. Vous mettez du sulfate, ça fait 6. En fait, vous mettez du bromure, c'est un peu plus gros. Vous avez un mélange de 5 et de 6. Donc, ça a donné l'idée que, finalement, on a négligé une des propriétés de la chimie supramoléculaire qui était là dès le début, c'est que comme les liaisons sont labiles, les objets de la chimie supramoléculaire peuvent se défaire et se refaire, se défaire et se refaire, se déconstruire et se reconstruire. Donc, c'est une chimie qui est dynamique dans la constitution même de l'objet. On peut alors faire une espèce de « back to the future », retour vers l'avenir, retourner vers la chimie semi-moléculaire en se disant « si j'introduisais dans la chimie des liaisons covalentes cette aptitude qu'a la chimie supramoléculaire à fabriquer des objets labiles, à nouveau une espèce d'hérésie pour la chimie organique, qu'est-ce que je pourrais faire ? Puis-je faire des molécules dans lesquelles intentionnellement j'introduis des liaisons qui peuvent se couper, se refaire ? Ceci peut-être donnerait lieu à des propriétés qui n'existent pas dans les matériaux statiques. Cela conduit à réunir sous un même chapeau la chimie supramoléculaire qui est dynamique par constitution, par essence, et la chimie moléculaire qui est rendue dynamique intentionnellement parce qu'on y introduit justement des liaisons dont chimiquement on sait qu'elles peuvent réversiblement se faire et se défaire. Ceci permet évidemment ça ouvre la voie à la possibilité d'adaptation par variation de la constitution de l'objet. À quoi cela peut-il bien servir ? Cette chimie dynamique constitutionnelle, d'abord, est créée, bien sûr, de la diversité dynamique. Elle donc permet d'opérer des sélections et ouvre la voie à l'adaptation. Du point de vue des utilisations possibles, d'une part, il y a peut-être des voies, là, des nouvelles voies pour arriver à trouver des substances biologiquement actives, par exemple des médicaments. Des nanostructures dynamiques qui peuvent se chercher, s'assembler, se fabriquer en fonction de ce qui les entoure. Des matériaux dynamiques, peut-être, qui s'adapteront aussi à des changements. Je vais vous en donner quelques exemples pour terminer. Tout d'abord, la recherche de substances biologiquement actives. Je vais être extrêmement schématique. L'une des approches, c'est fabriquer la bonne clé pour la serrure. Là, on est content. Mais il faut connaître la serrure, il faut savoir fabriquer la clé, et il faut que ça colle ensuite. Donc, il y a un certain nombre de connaissances qui sont absolument nécessaires pour qu'on puisse aboutir à la fabrication de la bonne clé, en quelque sorte, la molécule biologiquement active, pour la serrure biologique. L'autre approche est de dire, bon, très bien, c'est très bien de comprendre la reconnaissance et puis toutes ces choses-là, mais ça va prendre du temps et vous n'êtes même pas sûr de pouvoir, par exemple, trouver la forme de la serrure, puisqu'il faut la cristalliser, il faut faire la structure, etc. Nous allons fabriquer 100 000 clés. Nous avons des méthodes de criblage rapide et de robotique qui permettent d'en tester 10 000 ou 100 000 rapidement. Et si les 100 000 premières ne sont pas bonnes, ben on en fait 100 000 autres et puis on va voir. C'est l'approche schématiquement présentée de ce qu'on appelle la chimie combinatoire. On recombine des groupements chimiques, on essaye tout ce qui traîne, mais ça, ce n'est pas très encourageant quand on essaie de comprendre la reconnaissance moléculaire. On se dit, après tout, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi comprendre tout ça ? Alors, la combinaison intéressante, c'est justement d'allier la puissance de la combinatoire à la puissance de l'information, de la reconnaissance moléculaire. c'est-à-dire de se reposer sur le fait que la reconnaissance moléculaire peut être conduire à sélectionner dans une combinatoire ce qui est le mieux. Je m'exprime par un dessin. Au lieu de fabriquer une clé ou des milliers et des centaines de milliers de clés, on n'a que des fragments. Mais on fait en sorte que ces fragments peuvent se recombiner de sorte à générer toutes les combinaisons possibles des fragments, les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on a accès à ce que j'appelle une bibliothèque virtuelle. Ces clés n'ont pas besoin d'exister, elles sont simplement dans la possibilité d'existence. Si ensuite vous faites appel à M. Le Châtelier, vous rajoutez la serrure va préférentiellement lier cette clé qui est la meilleure, celle qui interagit le mieux. En quelque sorte, la serrure assemble sa propre clé. La reconnaissance moléculaire conduit le système à générer préférentiellement cet objet qui est le meilleur. Cette approche a été appliquée à des inhibiteurs d'enzymes. Ce n'est pas la panacée, hein. Comme vous savez, il n'y a pas de panacée en science, mais c'est une approche intéressante et qui, en plus, ouvre conceptuellement aussi sur d'autres perspectives. C'est donc une sélection dynamique par reconnaissance moléculaire. Quelques exemples de matériaux. À quoi ça peut bien servir de faire des matériaux dynamiques? A priori, on se dit, si j'avais une chemise faite avec un matériel dynamique, elle va tomber en petits morceaux. Quel est l'intérêt? Évidemment, on ne va pas essayer de reproduire avec des matériaux dont les liaisons entre les composants sont dynamiques, les propriétés des matériaux qu'on peut appeler statiques. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut en faire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voyons le cas simplement de matériaux typiques, les polymères, ce que nous appelons des dynamères, des polymères dynamiques. Tout d'abord, les polymères dits supramoléculaires sont par essence, par nature dynamique, c'est-à-dire ce sont des composants dont les interactions sont faibles, sont faites par ces interactions faibles qui ici sont des liaisons hydrogènes, et ces liaisons hydrogènes permettent donc, par exemple, s'il y a des sites complémentaires, donneur-accepteur-donneur de liaisons hydrogènes, NH-NNH, ici accepteur-donneur-accepteur, les deux sont complémentaires, vous les mélangez et vous obtenez une chaîne où les liaisons entre les composants sont faites par cette triple interaction complémentaire. La reconnaissance s'effectue entre ce groupe et ce groupe. C'est effectivement, ça marche, c'est-à-dire qu'on obtient effectivement des polymères de nature supramoléculaire, comme vous le voyez ici, par microscopie électronique, vous voyez ici les textures que l'on obtient à partir de ces composants de base qui génèrent ce genre de fibres de type supramoléculaire. En ce qui concerne les matériaux covalents, il faut que les interactions entre les composants soient réversibles. Et je voulais vous illustrer cela par trois exemples. D'abord, que peut-on faire du point de vue des propriétés mécaniques des polymères en question? Alors, sans entrer dans les détails, ce polymère-là, représenté par ce groupe, schématiquement, est un polymère qui donne un film très mou, très étirable, sans aucun intérêt mécanique. Très, très mou, très, très étirable, pas de résistance mécanique. Mais c'est avec ça qu'on voulait partir. Vous prenez des monomères qui sont plus rigides, plus raides, en quelque sorte. Et comme les liaisons ici, ces liaisons ici, sont des liaisons réversibles, ces monomères plus durs peuvent s'introduire dans la chaîne du monomère, du polymère souple, étirable. Et si on fait ça alors en augmentant progressivement le pourcentage des nouveaux, on obtient des modifications mécaniques. Avec 25%, vous voyez, déjà, c'est moins mou, moins étirable. Avec 50%, le polymère maintenant est assez résistant pour supporter son propre poids. Et à 75%, il vous reste la flexibilité, mais cela devient aussi mécaniquement plus résistant. Donc, vous pouvez progressivement convertir un matériau, un polymère, un film mou, étirable, en un film dur et résistant. Ce qui montre que, et en fait, n'importe quelle propriété mécanique le long de la chaîne de la conversion de l'un dans l'autre, évidemment, peut être atteint. Du propriété optique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Supposez que vous disposez de deux types de films, deux polymères. L'un qui n'est ni coloré ni fluorescent, l'autre qui est légèrement coloré et peut-être légèrement fluorescent. Le premier, c'est AB, du composant A et B, l'autre A'B'. AB plus A'B', vous les recouvrez, vous les superposez à cet endroit-là. Dans ce cas-là, une recomposition peut se faire. A peut se combiner à B' et B à A', juste à l'interface où il y a recouvrement, mais pas ailleurs. Ce qui veut dire que vous devriez générer ici deux nouvelles unités qui peuvent peut-être, l'une d'entre elles, avoir une couleur ou une fluorescence. Et là, vous le verrez, si ça se passe. Voilà le cas. C'est petite tête de chat. Mes collaborateurs aimaient beaucoup les petits dessins comme ça. La tête et les oreilles, c'est un des polymères. Celui-ci, AB, par exemple. Moustache, yeux et intérieur de l'oreille, l'autre. Superposé, vous chauffez. Il y a une recombinaison à l'interface en contact, la couleur apparaît et de la fluorescence apparaît. Donc c'est bien à l'interface, ça prouve que, la réorganisation se fait. Ça permet aussi de dire que je peux en principe écrire à l'interface avec un laser qui chauffe, et si je fais un millefeuille, je peux écrire à trois dimensions. Peut-on aussi faire des systèmes, puisqu'il peut se recomposer, il devrait guérir, il devrait se réparer. Sans entrer dans le détail de la réaction utilisée, voilà un film fait à partir d'une de ces réactions qui connectent de façon réversible. Vous le coupez en deux, vous superposez les deux côtés, vous pressez et vous tirez. Ça tient. À l'interface, les liaisons se sont refaites et vous avez réparé la coupure qui vous avait été faite. Donc, en principe, on peut aussi mettre au point des matériaux autoréparants de cette façon-là. Cette chimie dynamique constitutionnelle rend donc possible une chimie adaptative. Elle permet de générer la diversité et la sélection peut opérer sur cette diversité. L'adaptation, qui est l'étape donc qui est ouverte par cette dynamique constitutionnelle, peut se faire en réponse à des effets de milieu, des changements de phase, des stimulus physiques, comme par exemple un champ électrique, un effecteur chimique, rajouter des protons, rajouter différents objets chimiques, ou même un changement de forme. Et on aboutit ainsi à des systèmes chimiques adaptatifs. Je voudrais juste faire sentir ce que ça peut représenter dans l'étape de complexité qui va se présenter, ou qui se présente déjà. On peut dire que ces systèmes où certains objets réagissent avec d'autres peuvent constituer des réseaux où tous les objets sont interconnectés. Et si vous en modifiez un, ça va avoir une influence sur tous les autres. Je vous montre juste le cas de 4 de ces objets en relation, et pour montrer ce que ça peut représenter. Si vous avez AB, AC qui peut réagir avec BD, il peut faire AD, AB, BC et BD. Vous pouvez les mettre au sommet d'un carré. AD, AB, CB, CD. Les relations sont antagonistes entre ceux qui ont un élément commun et agonistes entre ceux qui n'ont pas d'élément commun. Toute augmentation de l'un des membres de ces 4 conduit à une diminution des antagonistes et une augmentation des agonistes. Si vous augmentez AD, nécessairement, ce qui reste, c'est CB qui doit augmenter. Ça conduit à quoi ? Juste indiquer ce à quoi ça peut conduire. Si au départ, vous avez un système qui est statistiquement distribué, si vous lui imposez une stimulation, un effecteur, vous avez une nouvelle distribution, ce qu'on peut appeler une distribution forcée. Dans cette distribution forcée, les agonistes sont amplifiés. Si l'effecteur que vous rajoutez est un effecteur qui influence, par exemple, AB, l'un des agonistes, nécessairement, vous allez aussi influencer CD, l'autre membre de la paire antagoniste. Ça a une signification tout à fait intéressante. Il y a une adaptation qui est imprimée par l'effecteur, et vous commencez donc avec le système que je vous ai déjà montré. Donc les traits pleins, c'est les relations agonistes, les traits hachurés sont des relations antagonistes, Et l'effecteur va conduire à une amplification de la paire qui est agoniste. Cela veut dire quelque chose d'intéressant aussi. Cela veut dire que, dans l'évolution de la matière, si maintenant on reprend un peu le phénomène général, si quelque chose s'est fait qui était the fittest, qui était bien adapté, nécessairement, on peut imaginer que l'amplification du meilleur crée une niche pour celui qui est moins bon. Ceux qui ont des relations, qui ont des éléments communs, si l'un augmente, les autres vont diminuer. Mais s'il n'y a pas d'éléments communs, le fait d'amplifier l'un d'entre eux crée une niche écologique, n'importe, pour celui qui est moins bien adapté. Alors ça, peut-être dans la nature, on peut discuter, etc. Mais chimiquement, c'est très intéressant. Parce qu'il se pourrait très bien que ce qui vous intéresse, c'est la propriété de celui qui n'est pas amplifié par l'effecteur. Et donc, à l'aide de l'effecteur, vous pouvez amplifier l'autre et avoir une propriété qui est une propriété désirable pour une raison ou pour une autre. Ceci aussi me permet de dire qu'en fait, la chimie, maintenant, commence à travailler en 5 dimensions. Il y a évidemment les 3 dimensions d'espace, la forme des molécules, une dimension de temps, le déroulement des réactions chimiques et des mouvements moléculaires, et une dimension de constitution. On s'intéresse à la constitution même de l'objet, qui est une dimension nouvelle et qui varie suivant les composants que l'on introduit. L'auto-organisation, le chemin est long, sera encore très très long, puisqu'on est vraiment qu'à ses débuts. À commencer par le fait que les chimistes ont appris à fabriquer des molécules de plus en plus complexes. La chimie moléculaire s'est édifiée, l'art et la science de fabriquer des édifices moléculaires avec les éléments que l'univers nous donne, le tableau périodique de Mendeleïev. Là-dessus, la chimie supramoléculaire a bâti ces objets dont les interactions sont plus douces, plus faibles, et qui permettent d'édifier des architectures plus grandes avec donc la mise en jeu aussi de cette information moléculaire. Ici, on a un projet, on conçoit les objets. L'introduction de la dynamique, en quelque sorte, cette rétroaction, utiliser la dynamique qui est intrinsèque à la chimie supramoléculaire, l'introduire dans la moléculaire, donne lieu à cette chimie dynamique qui réside dans la constitution des objets, et ce qui permet la sélection et donc permet, en principe, une chimie adaptative. On arrive donc à envisager une chimie qui devient de plus en plus adaptative, l'étape ensuite étant évolutive, et évidemment, pourquoi pas, à odeur darwinienne, en quelque sorte un darwinisme encore très simpliste par rapport à tous les biologistes qui sont dans la salle, vous vous rendez bien compte qu'on ne prétend pas du tout être au niveau de complexité, mais il faut bien commencer quelque part, et si l'évolution biologique existe, c'est aussi parce que c'est sur la base d'une évolution chimique. Au départ, il y a de la chimie qui conduit à l'évolution biologique. Donc là, ce sont des objets artificiels qu'on essaie de comprendre comment cette odeur de darwinisme peut être introduite en chimie. Je voudrais terminer sur une autre note. Il y a aussi des ressources artistiques en chimie. Quelques petites illustrations. Voilà à nouveau notre cryptate qui a inspiré un chimiste devenu aussi sculpteur. Le voilà. C'est un objet assez joli. C'est Belavizi, qui est un chimiste de l'université de Veszprém sur le lac Balaton en Hongrie. Mais il s'est inspiré pas seulement de notre molécule. J'étais très heureux quand il m'a fait cet objet-là. Il a fait d'autres choses qui étaient très jolies aussi. Je vous en montre 4. Je voudrais surtout insister, par exemple, là-dessus. Ceci s'appelle l'essence de rose. Effectivement, une espèce de fumée qui se dégage. Or, pour les chimistes de la salle, ils doivent savoir ce qu'est l'essence de rose, quel est le produit dominant. C'est l'alcool phényléthylique, phényl, CH2, CH2OH. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas chimiste, l'objet est beau, je l'ai montré à des artistes, ils sont très contents, ils trouvent que c'est beau, mais en même temps, c'est une molécule. Ça, c'est le linalool et l'acétate de linalool, les danseurs, le couple de danseurs. Ceci est très intéressant aussi. C'est une grande firme pharmaceutique qui avait demandé à Belavizi de leur faire une sculpture à mettre devant leur bâtiment. Et cette firme produisait une molécule qui est bon pour le cœur, en quelque sorte. Alors, il a pris la molécule, il l'a un peu tordu, il a fait ça. C'est pour un chimiste, on peut y reconnaître la molécule. Il a appelé ça « the helping hand ». Je trouve aussi que l'inspiration était très belle. Un peu de musique. Borodine. Il est connu comme compositeur, évidemment. Je pense que la plupart d'entre vous, tout le monde, doit connaître le prince Igor. Il a écrit des symphonies, quatuors, quintettes. Mais, ce qui est peut-être moins connu, c'était un chimiste. Et en fait, il se considérait plus chimiste que compositeur. C'était un ami de Mendeleïev. Ils sont allés ensemble au congrès de Karlsruhe, le fameux congrès de 1860, qui est le premier à avoir vraiment donné aux chimistes l'idée que c'était qu'une molécule. C'était le premier congrès, et c'était un congrès absolument crucial, essentiel. Wurtz, qui était l'un des organisateurs, a écrit un papier. Avant d'y aller, l'acide acétique avait 21 représentations différentes, à peu près. C'est au congrès de Karlsruhe qu'on s'est entendu sur la façon de représenter l'acide acétique, par exemple. Et il y a deux réactions, la réaction de Borodine-Hunsticker, celle-ci, et une autre qui est une... Il était en compétition avec Wurtz aussi, la réaction de la condensation aldolique de Borodine et Wurtz indépendamment. Un autre exemple, personnellement, l'opéra Wozzeck est l'un de mes opéras préférés. Je le cite pas seulement pour ça. Alban Berg a écrit ceci, et il y a là-dedans un docteur qui, à un moment donné, dit il y a une... Il chante, évidemment. Il y a une révolution dans la science. Albumine, feta, graisse, kohlenhydrate, hydrate de carbone, und zwar, et notamment, quoi ? Oxyaldéhyde anhydride. Vous dire, boire ça dans un opéra, je trouve que c'est pas mal. Oxyaldéhyde anhydride. Merci, monsieur Berg. Revenons pour finir sur l'essence de la chimie. La chimie, ce n'est pas simplement de comprendre comment ça fonctionne, mais en ayant compris, de découvrir ce qu'il faut qu'on peut faire avec. Donc de créer des nouvelles expressions de la matière. Le livre de la chimie, il s'agit de l'écrire, pas seulement de lire ce qui existe déjà. La partition, elle est à composer, pas seulement à jouer. Souvent, nous la jouons, mais il faut la composer. Le sculpteur fait sortir de la pierre une sculpture qui n'était pas contenue. Donc la matière est là, mais l'expression d'un objet, la création de l'objet, c'est le sculpteur qui le fait, qui crée l'objet en question. De la même façon, en utilisant les briques que l'univers nous donne, le tableau périodique des éléments de Mendeleïev peut de façon infinie recomposer, décomposer, édifier tous les objets qui ne sont pas encore connus. On peut donc dire qu'en quelque sorte, la chimie est aussi un art de la matière. La science, en fait, c'est ça, notre ultime ressource. On pourrait installer un peu de cet ordinateur, il va un peu trop vite. Point d'interrogation ? Double point d'exclamation. J'aurais pu en mettre plus. Prométhée, nous savons, a conquis le feu. Ce que nous savons, nous ne pouvons pas le rendre. Le voilà Prométhée s'échappant, regardant derrière son épaule pour voir s'il n'est pas poursuivi. Une fois arrivé à destination, il brandit la flamme. La flamme qui nous permet d'aller de l'arbre de la connaissance jusqu'au contrôle de notre propre destinée. Et pour terminer, je n'ai pas parlé de mathématiques. Parlons quand même de mathématiciens. David Hilbert est enterré à Göttingen. Sur sa tombe, il y a une inscription. Qu'est-ce ? Wir müssen wissen. Nous devons savoir. Wir werden wissen. Nous saurons. Grâce à notre flambeau. Merci.